Direct en jeu, la radio insolite. Vous savez que nous aimons participer à un certain nombre de conférences, et en particulier celle de l'acteur de l'économie, qui est menée par un brillant animateur, Bernard Jacquan, qui est mon mentor, mon parrain. Et je ne savais pas, le 22 février, en allant à l'UCLI, pour participer à une conférence, que j'allais me retrouver dans une configuration aujourd'hui. Bonjour Joël.
Bonjour Alain.
Le thème de la conférence, c'était la raison d'être. Elle était partagée avec Didier Prince Agbodjian, qui est docteur en droit et ethnologue. Et ce qui était intéressant, c'est que vous avez parlé de la dynamique que vous aviez en éthique, en responsabilité d'entreprise au niveau du groupe SEB. D'abord, première question, qui êtes-vous ?
Alors, je m'appelle Joël Tronchon, je suis directeur du développement durable du groupe SEB et je pilote aussi le fonds de dotation du groupe SEB depuis 8 ans.
Auparavant, vous avez travaillé chez Tefal, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, je suis entré dans le groupe SEB comme DRH en fait, de Tefal et de l'activité articles culinaires. En gros, tout ce qui est poêles, les casseroles, les autocuiseurs fabriqués en France pour les usines dont je m'occupais.
Le 22 février, vous parliez d'une opportunité pour l'entreprise concernant cette notion de raison d'être, de respect, d'éthique, de morale. C'est assez impressionnant de voir qu'aujourd'hui, si on est dans une situation où vous aviez déjà tout compris avant.
Mais effectivement, l'engagement du groupe dans ce qui s'appelle aujourd'hui le développement durable ou la RSE, il date d'assez longtemps. C'est un groupe, le groupe SEB, qui a toujours été précurseur. Alors très très tôt, même, j'allais dire le fondateur du groupe au 19e siècle, mm-hmm. était quelqu'un qui était déjà dans l'économie circulaire puisqu'il était, rémouleur. Il réparait et il remettait à plat des casseroles. C'était vraiment le métier historique du fondateur du groupe SEB. Et puis après, il y a eu l'aspect plus social, sociétal de la RSE qui a été piloté par et impulsé par les dirigeants et les actionnaires familiaux de l'époque. On a été notamment un des groupes très en avance, bien avant la loi, à aller sur de la participation et de l'intéressement, parce que ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mm-hmm. Mais en tout cas, on avait anticipé tous ces... Et d'ailleurs, on est toujours partie des groupes qui sont plutôt leaders sur ces sujets-là aujourd'hui, sur ces aspects ressources humaines en France. Donc il y a toujours eu ce côté humaniste dès le départ dans le groupe SEB. Et puis en 2007, donc ça remonte à assez longtemps, effectivement, il y a eu la création de cette direction du développement durable. Et en 2007, à l'époque, il y avait quand même peu d'entreprises, même parmi les grandes entreprises, qui se dotaient d'une direction développement durable, donc une prise de conscience assez tôt. Et on a créé, en même temps que la direction du développement durable, d'ailleurs, on a créé également aussi une fondation d'entreprise qui avait pour objectif la lutte contre l'exclusion et l'aide aux associations dans ce domaine-là.
Vous êtes implanté dans le monde entier, en particulier vous êtes implanté dans une ville qui est connue au niveau mondial qui s'appelle Wuhan. Mais vous êtes aussi au Vietnam, vous êtes en Inde, vous êtes en Égypte, en Italie, vous êtes en France, vous êtes aussi en Colombie, vous êtes aux USA. Comment est-ce qu'on fait pour développer, dans le contexte actuel, les messages de développement durable, d'éthique, de responsabilité d'entreprise et tout, alors que c'est tout le monde entier qui est touché actuellement par ce virus?
C'est justement parce qu'on est présent dans le monde entier, on vend des produits dans plus de 150 pays, on a plus de 40 usines réparties sur tous les continents, dont effectivement... en Allemagne, en France, en Europe, en Italie, mais aussi en Chine, mais aussi, comme vous l'avez appelé, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, etc. C'est justement parce qu'on a une chaîne de valeur mondiale et une implantation locale que c'est important de se préoccuper d'éthique et, j'allais dire, de la conformité sociale et environnementale de la manière dont on fabrique les produits. Parce qu'à la limite, en France, le respect de l'éthique, j'allais dire, c'est relativement facile. Tout est borné par des obligations, le droit du travail, une protection des travailleurs et des salariés. On a moins de mal à respecter l'éthique. Quand on opère justement dans des pays où les droits de l'homme peuvent être questionnés, où les conditions sociales dans les usines sont des fois un petit peu complexes, il est important d'avoir justement un socle social minimum pour nos salariés dans ces pays-là. Et c'est vrai pour nos salariés, Et on s'évertue aussi à contrôler la conformité sociale de nos fournisseurs également. On utilise pour ça des audits sociaux et environnementaux. Et on audite régulièrement nos fournisseurs dans ces pays, entre guillemets, dits à risque, pour justement essayer de sécuriser les conditions de travail des salariés qui travaillent soit chez son fournisseur et évidemment, bien sûr, dans nos usines.
Au niveau de ce qui concerne la... j'allais dire l'éco-conception, l'empreinte environnementale, c'est une démarche qui a été guidée justement par toutes ces notions que vous expliquez. C'était vraiment une raison d'être.
Alors, l'éco-conception des produits, c'est un parti pris qui a été pris il y a déjà plus de 15 ans hein, dans le groupe SEB, qui est le parti pris de la qualité. En fait, le choix a été clair. Au début des années 2000, quand sont arrivés tous les produits à très très bas coût en provenance d'Asie, ça nous a posé quand même un certain nombre de questions, et notamment avec deux choix, soit le choix de faire la compétition par les prix toujours plus bas, et aussi avec une qualité toujours plus basse, en tout cas adaptée au prix. Et clairement, cette compétition-là, on ne souhaitait pas l'amener, elle n'était d'ailleurs pas forcément gagnante. Et puis, ni pour le consommateur d'ailleurs, ni pour le groupe.
Tout à fait, exactement.
On a pris le scénario 2, qui est le scénario de la sortie par le haut, qui est de fabriquer des produits à valeur ajoutée et à qualité beaucoup plus intéressante et avec une durabilité plus intéressante. D'où le fait de faire l'éco-conception, puisque promettre et garantir des produits durables aux consommateurs, ça veut dire des produits qui soient réparables, dont on peut prolonger la durée de vie, c'est ça le durable aussi, bien sûr de qualité, bien sûr supérieure aux produits dont on vient de parler, mais aussi des produits durables par la réparabilité, et pour assurer une réparabilité potentielle des produits, ça passe par une conception différente, ça passe par le fait de ne pas mélanger par exemple des matières premières, de ne pas coller des sous-ensembles, de pouvoir séparer pour mieux réparer des pièces détachées du produit, ne plutôt visser les produits plutôt que de les coller, enfin plein de choses qui impactent directement la conception même de nos produits.
On va parler un peu des hommes, des forces vives. Vous avez obtenu le label Happy Trainees en 2014. Qu'est-ce que c'est que ce label? Et puis je crois que ça concerne les salariés, les 34 000 collaborateurs qui sont dans 150 pays.
Alors, le label Happy Trainees, il concerne principalement, c'est un label qui concerne principalement les stagiaires et alternants, donc les jeunes qu'on accueille, avec une où effectivement nos équipes RH attachent un soin assez particulier à accueillir, à former et à mettre nos stagiaires et alternants dans des situations d'apprentissage extrêmement intéressantes, donc des missions valorisantes, beaucoup d'entretiens, beaucoup de feedback pour que les étudiants qui nous rejoignent puissent apprendre des choses, et puis évidemment après un suivi post-mission et puis l'embauche aussi d'une partie d'entre eux. Donc c'est toute cette chaîne-là d'accueil, j'allais dire, des stagiaires et alternants qui nous vaut ce label Happy Trainees. Après, pour les salariés, on développe des politiques RH effectivement plutôt de très très bon niveau. C'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans tous les pays où on opère, puisque on mesure effectivement après la satisfaction des salariés avec le baromètre Great Place to Work avec qui on travaille depuis 2012.
Comment est-ce que vous concevez le demain? Demain, parce qu'aujourd'hui, je suppose que vous êtes en télétravail vous-même.
Oui, en télétravail, et avec beaucoup de... Il y a des situations, donc, les salariés qui sont en télétravail chez SEB, et puis évidemment, une bonne partie aussi en chômage partiel, notamment dans les usines, qui sont, en France en tout cas, arrêtées.
D'accord. Ça a été compliqué de mettre en place le système de télétravail, où il y a vraiment eu une mobilisation de tout le monde?
Oui, une mobilisation forte, notamment de nos équipes RH, parce que c'est beaucoup de travail à mettre en place. Il y a beaucoup d'individualisation à faire, mais j'allais dire on avait déjà testé et expérimenté le télétravail depuis déjà quelques temps. On avait rendu ça possible avec un accord de qualité de vie au travail où on offrait déjà la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitaient d'expérimenter une journée de télétravail par semaine, et ça concernait notamment dans les sites tertiaires quand même plusieurs salariés. Donc, donc les gens étaient déjà préparés, étaient prêts, et on a su comment le gérer. Et je dois dire que nos équipes aussi informatiques ont fait un très très bon travail pour que une masse beaucoup plus importante de télétravailleurs puisse travailler sur les réseaux, sur les serveurs, utiliser les outils de système d'information du groupe SEB. Et ça s'est fait de manière relativement sans couture, comme on dit.
Comment vous prévoyez la suite, l'après? Est-ce qu'il y a des choses qui vont rester? Est-ce que par rapport à cette situation, vous avez découvert des nouvelles choses qui vont vous permettre toujours de progresser?
L'après, c'est surtout, nous, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le redémarrage dans le cadre de la santé et la sécurité de nos salariés. Mmh. Donc, l'après, c'est ça. Et donc, je pense qu'effectivement, ça va sans doute, cette crise va nous permettre de sans doute améliorer nos plans de continuité d'activité qui existaient heureusement déjà avant la crise, mais sans doute de les compléter, sans doute de retravailler un certain nombre de points pour que si d'autres crises dans l'avenir devaient surgir, on puisse être paré, que ce soit d'ailleurs pour les populations industrielles, logistiques, commerciales et tertiaires. En fait, c'est peut-être rentrer plus dans le détail justement de ce genre de crise, c'est a des impacts assez différenciés selon les populations. Et donc, il faut qu'on puisse avoir des réponses pour toutes les populations et pour mettre en sécurité au travail toutes ces populations-là sur une longue durée.
Le titre du débat qu'on avait eu le 22 février, c'était « La raison d'être, une opportunité pour l'entreprise ». Quelque part, il y a certaines personnes qui ont eu le courage de dire « à un mal, il y a un bien ». Est-ce que ça veut dire quelque part que ce confinement, ce virus, nous a obligés ou nous permet de faire un point sur l'actuel pour prendre la meilleure des démarches qui soit après?
Alors, moi, à titre personnel, je ne suis pas persuadé de ça. Je pense que, heureusement, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises, je dis surtout en France, parce que la France est assez leader sur ces sujets d'entreprises contributives. Moi, j'appelle ça plutôt des entreprises qui sont conscientes que, bien sûr, elles sont là pour générer de la valeur économique, sans quoi il n'y aurait pas grand-chose à redistribuer. Mm-hmm. Mais elles sont là aussi pour le faire en respectant des normes et des impacts sociaux et environnementaux. Je pense que bien avant la crise, il y a un certain nombre de grands groupes en France, dont le groupe SEB, mais on n'est pas les seuls, qui ont formalisé ou qui ont travaillé sur leur impact positif sur la société. Et je pense que peut-être ce qui va accélérer avec cette crise-là, c'est qu'effectivement les entreprises qui n'auraient pas, même avant la crise et même après, considéré que leur impact sur la société était quelque chose d'important, celle-là, effectivement, elle risque d'avoir un petit peu de soucis de business.
Tout à fait, non mais complètement, oui.
Dans le moyen long terme.
Va y avoir un changement de comportement au niveau consommateur, on le voit même aujourd'hui, c'est très clair.
Exactement, exactement. En tout cas, ça, j'espère qu'en tout cas, ça sera durable comme changement de comportement. J'espère en tout cas que les consommateurs vont se tourner vers des produits qui sont vraiment utiles. Et peut-être c'est ça ce que la crise va permettre de faire. Est-ce que vraiment j'ai besoin de tel ou tel produit? Je prends l'exemple d'un produit emblématique du groupe SEB, qui est un produit extrêmement durable, parce qu'il ne produit pas de packaging, il produit des yaourts faits maison, c'est la yaourtière. On a une explosion des ventes de la yaourtière en ce moment.
Il n'y a plus de farine, pour info.
Utile,
il n'y a plus de farine. Je disais, il n'y a plus de farine, pour info.
Exactement. Et c'est vrai pour les machines à pain aussi. Et ce que je veux dire, c'est que la yaourtière, c'est typiquement le produit où on se dit, tiens, effectivement, ce n'est pas un produit gadget. C'est un produit qui a une fonctionnalité de je fabrique mes yaourts à la maison. Et donc, c'est quelque chose qui a une utilité. Je pense que les gens vont se tourner vers des produits réellement utiles. Et les produits aussi, je pense, je suis même sûr, qu'il va y avoir une prise de conscience des gens que la cuisine faite à la maison, en famille en plus, ce qui joue sur des valeurs comme la transmission de savoir-faire culinaire, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui produit bien sûr des effets en termes de nutrition, de santé, parce que quand on mange cuisiné fait maison avec des produits frais, on mange mieux, ça c'est sûr. Mais en plus, on mange moins de produits transformés, on mange plus de produits frais. Et je pense que ça va s'ancrer. Et ça, c'est vraiment nous ce qu'on défend depuis des années. C'est nos outils, nos produits servent les consommateurs, les citoyens, pour justement leur faciliter la vie, pour cuisiner mieux et plus vite et plus facilement des recettes faites maison. Et ça, je pense que ça fait basculer dans la cuisine fait maison beaucoup de nouveaux consommateurs, ça c'est sûr.
Allez, dernière question un peu insolite. Vous avez une spécialité culinaire vous-même?
J'ai une spécialité culinaire. Moi, oui, moi, je cuisine, j'adore, et ce n'est pas toujours l'unanimité chez moi d'ailleurs, j'adore les légumineuses.
Ah, ben parfait, super.
Voilà, alors c'est cohérent avec mes engagements en développement durable, parce que finalement, c'est des protéines végétales qui sont des bonnes alternatives aux protéines animales. En gros, on mange moins de viande, on mange plus de protéines végétales et plus de légumineuses. Donc, les lentilles, dont je suis un inconditionnel, voilà, c'est ça ma spécialité culinaire.
Bah écoutez, moi, je voulais vous remercier de m'avoir donné ces quelques minutes dans toute l'activité que vous avez. Bien de bonnes choses, puis bonne santé surtout.
Un grand merci, Alain, et bonne journée à vous
merci.
Et à vos auditeurs.